nous, à Cité Radio, on ne forme pas les grandes chanteuses de l'opéra, ni vous aider à diriger un orchestre symphonique. Mais grâce à notre site citéradio.fr, on vous garantit de l'info locale, de la culture et de la bonne humeur, et la possibilité de nous écouter 24h sur 24, où que vous soyez. Et ça, c'est déjà pas mal. Citéradio.fr, le site de la positive info. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Tous les lundis en direct de 18h30 à 19h30, retrouvez le sport sur son 37, le rendez-vous sportif de Cité Radio. Durant 60 minutes, Benjamin Hermite, Kevin Laurent, Soline Desnaux et Guillaume Colomba décryptent tous les résultats et les actualités des clubs sportifs de Touraine en compagnie d'invités. Le sport sur son 37, c'est à ne pas manquer en direct le lundi à 18h30 et en rediffusion le mardi à 13h sur Cité Radio, la positive info.
Nous, à Cité Radio, on ne vous emmènera pas faire de la plongée sous-marine, ni nager aux côtés des dauphins. Mais grâce à notre site citéradio.fr, on vous garantit de l'info locale, de la culture et de la bonne humeur, et la possibilité de nous écouter 24h sur 24, où que vous soyez. Et ça, c'est déjà pas mal. Citéradio.fr, le site de la positive info. Les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Chers auditeurs, l'heure est grave. Je dirais même plus, l'heure est sinistre. Certes, les raisons de nous affliger ne manquent pas, et ce n'est pas ici que je vais vous les énumérer. Et pour ajouter à la morosité ambiante, la dernière boutique de farce et attrape de Tours a fermé ses portes au 31 décembre 2023. Cherchant des claque-doigts, bonbons à l'ail, sucre magique aux mouches et autres bonbons à faire pipi tout bleu, j'ai trouvé le gérant en train de mettre en caisse ses dernières amusettes pour enfants. Nous, on faisait de la qualité, des farces sans danger et qui amusaient toute la famille. Internet et les boutiques à bas prix ont eu notre peau et puis on ne rit plus de nos jours, se désolait-il devant la mine déconfite des enfants. Le monde a changé, mais pas les mômes qui rêvent de faire des blagues et de rigoler du matin au soir. Fini donc les chewing-gums électriques, les dragées au poivre, le poêle à gratter, la bague qui lance de l'eau? Pas tout à fait. On peut trouver tout cela en ligne, mais avec un bilan écologique désastreux. Les araignées, blattes cafards, vers gluants et autres mille pattes sont tous fabriqués en plastique, tous des produits issus de la pétrochimie. Les boules puantes peuvent être toxiques, l'appareil photo piégé qui lance de l'eau, c'est encore du plastique. Le coussin baiteur est de si mauvaise qualité qu'il faudrait en racheter un œuf à chaque usage. Bref, il y a quelque chose de pourri dans le royaume des farces et attrapes. Sans vouloir me vanter, j'ai quand même quelques solutions à proposer pour continuer à s'amuser sans faire de mal à personne ni nuire à la planète. Première solution, zéro déchet, zéro émission, le canular. Cette bonne vieille invention qu'on ne ressort malheureusement que le 1er avril mais qui mériterait un meilleur traitement. Il remet au goût du jour le talent du raconteur d'histoire, il fait travailler l'imagination et l'esprit critique. On ne saurait trop conseiller de travailler sur le canular en éducation aux médias d'information. Pour remplacer les farces et attrapes fabriquées en Chine, transportées à grand renfort de fuel sur des porte-containers géants, il y a le DIA. Je traduis, do it yourself, je traduis encore, faites-le vous-même. Les recettes de boules puantes ne manquent pas en ligne. Il suffit de se procurer quelques pelures d'oignons, les petits bouts rouges d'allumettes, un bocal, quelques petits mélanges et l'affaire est dans le bocal. Si vous voulez effrayer les copains avec des insectes en plastique, vous pouvez d'abord vous en procurer en ressourcerie, ça ne manque pas. Il est cependant plus intéressant de les fabriquer vous-même avec des déchets végétaux, des bouts de ficelle, de fils de fer et des modèles d'insectes pris dans les livres. C'est à la fois instructif, créatif et peut occuper les enfants des heures entières, les mercredis après-midi, heures pendant lesquelles ils ne seront pas collés sur des écrans. Je peux aussi vous proposer la version upcycling, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux, Un bâton de colle usagé, une vieille seringue sans son aiguille, un petit bricolage facile et vous faites ainsi un bâton de colle qui lance de l'eau. Évitez surtout de l'utiliser en classe et si vous récoltez des heures de colle, haha, ce n'est pas moi qui les ferai à votre place. Assumez. Dernière petite blague avant de finir, un classique, le seau en plastique à moitié rempli d'eau, en équilibre sur une porte qu'on va ouvrir ou fermer. Oui, ça mouille. À ne faire qu'en été et dans un environnement qui le permet. Je fais confiance à votre imagination et à celle de vos amis pour inventer et bricoler des blagues en tout genre. Vous pourrez témoigner de vos plus belles réussites en écrivant à Cité Radio. Et surtout, amusez-vous bien!
C'était les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, deux secondes à peine. Je peux vous faire rire, vous faire de la peine. Mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Messieurs, dames, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre. Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi. Mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas, y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Qui ne va pas. Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise, on se reverra sûrement pas, non. J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve, accroché à la lune. Et moi, je rêve. Thank you.
Les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Chers auditeurs des chroniques irrégulières, bonjour. Je ne suis pas à un paradoxe près. Cette chronique va vous parler aujourd'hui de silence et ainsi le briser par mes bavardages. C'est une question aussi bien écologique qu'existentielle et qui mérite quelques réflexions que vous pourrez méditer dans le calme de la forêt, devant la mer, dont le fracas est une forme supérieure du silence, voire dans votre chambre que vous n'auriez pas dû quitter, à en croire Blaise Pascal, car tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Le silence ne s'oppose pas à la musique, il l'accompagne, il en est un élément. Le silence après Mozart n'est-il pas encore du Mozart? Et si vos souvenirs de solfège vous reviennent, rappelez-vous les pauses, demi-pauses et soupirs, petits silences permettant à la mélodie de reprendre son souffle. Non, le silence s'oppose au chaos du bruit. Les moteurs, les machines, les bruits incessants de la ville, le bruit de fond de la télé et de la radio. Pardon, pas toujours la radio qui t'y accompagne aux personnes isolées. Le bruit, en effet, c'est plutôt de la radio qu'on n'écoute pas. Car si l'on y prête attention, nous changeons de registre et nous voilà dans la conversation. La radio nous parle et la parole n'est plus du bruit car elle a du sens. Revenons au bruit. Le bruit, donc, incessant, agressif, violent, sournois, constitue une nuisance. D'ailleurs, elle a un nom, cette nuisance. On l'appelle la pollution sonore. Elle nous maintient dans un état de stress et nous aliène. Elle stresse également les animaux, y compris les animaux marins. Pire, le bruit nuit à la communication des bêtes et peut même affecter leur reproduction et leur survie. Savez-vous que les oiseaux des villes sont obligés de chanter plus fort pour pouvoir se faire entendre dans le vacarme ambiant? Quand le commandant Cousteau intitulait ses films sur la mer « Le monde du silence », il était loin d'imaginer que les forages sous-marins, les moteurs de bateaux, les sonars et autres incursions humaines sous-marines auraient des conséquences désastreuses sur les cétacés, comme la surdité temporaire, voire définitive. Quelle tristesse pour une baleine et quel danger aussi de ne plus pouvoir entendre le chant de ses congénères, et surtout de ne plus communiquer, ce qui est vital. Le pire est qu'il est impossible de se protéger dans un environnement bruyant, car les oreilles n'ont pas de paupières. On ne compte plus les querelles de voisinage causées par le tapage dans l'immeuble, voire les coups de folie des personnes poussées à bout par le vacarme et qui prennent leur fusil pour obtenir enfin le silence. Car oui, le bruit nous agresse. Il existe certes des règlements pour limiter les bruits sur les lieux de travail ou en ville, mais il y aurait encore bien à faire. Et cela ne suffit pas. Le pire, c'est qu'on s'habitue. Et finalement, le silence finit par faire peur. D'une certaine façon, le bruit nous rassure. Il nous prouve qu'il y a de la vie autour de nous. À ce propos, je vais devoir encore solliciter l'aide de Blaise Pascal. Il a écrit « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie ». À croire qu'ils connaissaient notre époque. Beaucoup de nos contemporains avoueront être angoissés par le silence. Le silence qui peut permettre au flux de nos pensées de s'écouler librement, ça peut être inquiétant. C'est dans le silence que naissent les questions et la réflexion. Et non, et ce n'est pas forcément de tout repos de se poser des questions. Et si vous le voulez bien, voici ma pirouette finale, qui va dire le contraire de ce que je viens de dire, ou du moins le relativiser. Il existe une forme de torture particulièrement cruelle, la torture blanche, une torture psychologique qui prive le prisonnier de tous ses sens et de toute identité par la même occasion. Il est enfermé dans une cellule blanche, des murs au plafond, vêtements, nourriture sont blancs, et la pièce, en plus, est entièrement insonorisée. C'est un silence de mort qui règne là, et qui laisse des traces indélébiles sur le psychisme. Gardons donc le sens de la mesure et profitons en liberté des sons rassurants de la nature. Je laisse à Alfred de Vigny le mot de la fin. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Bonne journée.
C'était les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Et la musique revient sur Cité Radio avec les insomnies de la chanteuse Adé.
Mais je dors même pas, je m'ennuie seule dans ma tête et sans étoiles. À trop douter, je me répète. Oh, respire-moi. J'ai peur de t'avouer, je veux négocier comme un playback. Parler sans bruit, aucun répit. Je voudrais tout défaire et les yeux. Tout est fermé et les yeux ouverts, seul dans le silence, je pense. Je dors toujours pas, je plante des fleurs sur ma tombe, je pense à quoi. Je vois des monstres et des colombes qui volent sur moi. J'y ai passé des nuits, j'y ai passé des heures, mon cinéma. Toutes mes erreurs bien en valeur. Oh, 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 oh. Je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense, troublé dans la nuit. Dans les cauchemars, mes fleurs, a brisé mon cœur et dans la souffrance. Prudence, je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense.
Flames.
stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. Oh, my love, keep on running. We gotta get through today.
Profession habillée par Cardin et chaussée par Carville. Chip, roulant Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou. Un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout.
J'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, ils se promènent.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait craque-boum-hu. 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 Encore.
Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info.
mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de sang froid, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Si vous êtes fan des années 80, alors je vous donne rendez-vous dans Rétro Musique pour un voyage dans cette décennie. Vous retrouverez bien sûr le meilleur de la musique, mais aussi des chroniques comme le double titre et la perle rare. A bientôt.
Rétro Musique avec Guillaume Colomba. C'est tous les vendredis à 20h et le dimanche à 19h sur Cité Radio, la positive info. Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Question média. Vous êtes prêts ? Top, je suis une radio tourangelle de proximité qui diffuse sur le web, la FM et en DAB+. Mon site internet, on y trouve tout plein d'interviews sur la vie locale.
Citrouille Radio.
Non. Top, je participe à des événements chaque année, comme les Assises du Journalisme, le Quartier des Fontaines, le Mois de l'Économie Sociale...
C'est la mer Noire ?
Mais non, on parle de radio. Top, je diffuse aussi de la musique, des bons plans et mon slogan, c'est la positive info. Je suis...
Ah oui, je sais, Cité Radio.
Oui, bravo. C'est Cité Radio, la positive info. Très belle victoire.
Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Je suis aujourd'hui avec Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter, expliquer un peu votre parcours ?
Alors, du coup, Olivier Renard, donc, du coup, moi, je suis allé fonder alors, Météo Centre, même avant le côté associatif, en 2009. J'ai monté le site web tout seul avec mon petit clavier. Et puis, en 2011, à la troisième version du site, comme tout ça marchait relativement bien, on a décidé de passer en association loi 1901. De formation, moi j'ai une formation en biologie générale et sciences de la Terre et de l'univers à la faculté d'Orléans. Et puis maintenant je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre depuis 15 ans au lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux.
Et qu'est-ce que l'association Météo Centre ?
Alors du coup à Météo Centre, ça regroupe en fait des passionnés de météorologie et de climatologie dans la région Centre. Dans la région Centre-Val-de-Loire, donc on est actuellement 170 adhérents, pour vous donner à peu près une idée. Et puis les trois grands axes de l'association, finalement, c'est à la fois de fournir des informations gratuites au grand public sur des phénomènes météo qui vont toucher notre région et notamment aussi l'Indre-et-Loire, du coup. C'est dans un deuxième temps de créer un réseau de webcams météo, donc qui permettent une observation en direct, et puis aussi bien entendu, on a même commencé par là, c'est de construire du coup un réseau de stations météo semi-professionnelles que l'on déploie nous ou que l'on aide des particuliers à déployer. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 80 stations sur la région Centre et les départements limitrophes.
Donc vous expliquez que vous aviez 170 adhérents, comment est-ce qu'on peut devenir adhérent ?
Alors du coup, il suffit d'aller sur le site du coup météo-centre. Tout en haut à droite, il y a un petit onglet adhérer, et puis ensuite, du coup, il suffit de se laisser guider. On a trois types d'adhésion. On a les adhésions à 17 euros par an. Alors, c'est de date à date. Hein. On adhère tel jour de mars, c'est jusqu'à tel jour de mars 2025. On n'est pas sur une adhésion annuelle comme la plupart des autres associations, puisqu'on considère que voilà, on a encore la capacité de suivre nos adhérents au jour le jour. Donc 17 euros voilà, pour une personne simple, 30 euros pour les couples et puis 50 euros pour les personnes morales.
Et quel est le rôle de ces adhérents ?
Pour certains, du coup, ça va leur permettre donc d'avoir des avantages, hein, par exemple de pouvoir avoir une webcam qui va être payée par l'association. Alors il y a quelques règles à respecter. Voilà, il faut que bien entendu, ça soit pas trop proche de notre webcam. Faut pas qu'on filme les voisins, parce que ce qui nous intéresse, c'est principalement le ciel, bien entendu. Ça va être d'avoir aussi un rôle à jouer. Et là, du coup, on fait notre assemblée générale en avril. Ben voilà, de pouvoir intervenir. Lors de nos assemblées générales, de prendre un part à la aux directions et aux objectifs que l'on va fixer, pouvoir donner son avis et puis voilà partager avec les autres passionnés au cours de ces journées, du coup des informations sur ce qui se passe chez soi, pouvoir discuter d'un phénomène marquant, notamment par exemple.
Et est-ce que c'est le rôle de ces bénévoles aussi du coup d'informer sur la météo ou eux ils sont juste là à installer justement une webcam ou une station?
Alors ça peut, bien entendu, on a par exemple là, deux nouveaux adhérents qui sont arrivés dans l'association il y a une quinzaine de jours et qui peuvent mettre, s'ils le souhaitent, à disposition leurs compétences. Alors là, c'est des compétences numériques pour nous aider justement sur la gestion des bases de données et toutes les datas qu'on peut créer au jour le jour avec le réseau de stations. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut simplement adhérer pour soutenir et puis justement, du coup, intervenir. Voilà, il y a un orage de grêle, bah, envoyer une photo ou pas, c'est pas obligatoire, prévenir par les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, c'est pas un souci. Ou alors, bah, justement, du coup, décider au bout de une année ou deux, on peut avoir des gens qui pendant 5 ans nous ont soutenus, puis au bout de 5 ans, ils ont dit, bah, en fait, comme je trouve que ça marche bien et que dans l'ensemble, je suis content de ce que vous faites, bah, voilà, moi, je suis prêt à suivre la presse, à me déplacer sur 5-10 kilomètres quand il se passe quelque chose. Puis nous, du coup, on fait un petit résumé de tout ça, et puis, bah, quand on a besoin, les contacts, et après, de toute façon, il n'y a jamais rien d'obligatoire, bien entendu.
Donc, différents degrés d'adhésion possibles.
Exactement.
Et comment est-ce que vous financez tout le matériel ?
On a principalement du coup les adhésions, très clairement, hein, c'est quand même plus de, je crois que l'année dernière, c'est plus de 80% hein, de nos revenus. Après, on a un petit peu de publicité sur le site, donc mais bon, pour rester dans les lois de 1901, on est obligé de limiter. Et après, là, du coup, depuis cette année, la région Centre-Val de Loire nous a donné un petit peu d'argent justement pour nous aider pour tout ce qui est communication principalement. Donc ce qui fait que voilà, on peut déployer plus facilement des webcams finalement, parce que c'est quelques centaines d'euros. Donc on déploie plusieurs webcams par an. Là, on a notamment un projet par exemple à La Chapelle-sur-Loire, hein, dans l'Indre-et-Loire. Puis on essaye de financer de temps en temps des stations météo, mais c'est plus cher. Hein. Une station météo, c'est minimum en gros 1000 euros et ça peut aller jusqu'à 2000. Donc on essaye de fixer des objectifs à 3 années. En permanence pour forcer, voilà, une année 1, on fait plutôt de la webcam, une année 2, on fera plutôt une ou deux stations et très peu de webcam, une année 3, on fait sur les webcams pour continuer à déployer notre réseau.
Et pourquoi avoir créé cette association?
Il n'y avait personne sur la région, et même si, en effet, il y a moins de phénomènes météorologiques que sur des zones de montagne ou sur des zones côtières. Hein. Moi, j'ai participé cette année aux rencontres nationales de passionnés. Je me suis un petit peu fait charrier parce que, oui, mais tu te rends compte, t'as fait une asso, il se passe jamais rien. Alors, c'est de la taquinerie gentille, hein. Il se passe bien entendu des choses. Mais c'est vrai que c'est moins riche, mais j'ai estimé à cette époque que, voilà, je vois pas pourquoi, même si c'était un petit peu moins riche, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas une association de proximité pour regrouper ses adhérents et puis faire du travail sur le terrain et développer un réseau d'observation dans une région qui est quand même assez hétérogène. Et finalement, d'année en année, en densifiant les réseaux, on se rend compte que, bah oui, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais en fait, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer.
Et pourquoi c'est important pour vous de créer finalement ce réseau?
Bah, parce que j'étais engagé en fait au niveau national jusque dans les années 2002-2003, et puis j'avais envie de faire plus de proximité, parce que c'est vrai que bon, bah, quand on écrit un article sur un épisode Cévenol, bon bah c'est bien, hein, c'est intéressant, c'est de la météo, mais faire de la météo avec des gens à proximité, c'est plus intéressant. Maintenant, le conseil d'administration, c'est vraiment une bande d'amis, et on aime travailler ensemble. Ça se passe bien, il y a de bonnes relations, donc c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi, moi, d'un point de vue personnel, de toucher à d'autres choses qui peuvent être en lien avec mon métier. Voilà, en tant que professeur de terminale, j'ai travaillé sur météo et climat, donc ça m'apporte une vision différente des autres professeurs. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un siège au Conseil supérieur de la météo. Donc maintenant, j'y siège régulièrement dans certaines commissions. Et c'est vrai que c'est intéressant pour un développement personnel, bien entendu, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est très intéressant d'être un petit peu à la page de tout ce qui va se faire au niveau national et au niveau régional.
Et qu'est-ce que c'est le Conseil supérieur de météo?
Alors, le Conseil supérieur de la météo, c'est en gros 400 personnes sont réparties dans différentes commissions qui font le lien entre l'État, Météo France, des passionnés de météorologie, puis tous les instituts, CNRS, notamment par exemple RGM, INRAE. Et voilà, en fonction des commissions, on va débattre de différents sujets pour voir ce qui va être mis en place au niveau de Météo France, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. C'est juste, en fait, voilà, c'est pas un organe décisionnel, mais c'est plutôt un organe délibératif où on va beaucoup discuter. Alors bon, bah, des fois, on n'est pas content de ce qui va en sortir ou pas, mais dans l'ensemble, pour les premières commissions que j'ai pu mettre en place, ça se passe dans de bonnes conditions. Et je trouve que l'écoute est quand même assez intéressante.
Quels sont vos besoins aujourd'hui avec l'association Météo Centre?
Toujours plus d'adhérents, toujours plus de passionnés, forcément. Hein. Regrouper vraiment, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Et puis bah, après, des bénévoles, hein, bien entendu, éventuellement, hein, pour rentrer, pour renforcer l'équipe en termes de prévision, la gestion des réseaux sociaux, parce que on a une communauté qui approche des 70 000 et ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Ils sont parfois particulière sur leur point de vue. Donc c'est vrai qu'on a eu un épisode de climato-sceptiques qui ont essayé de détruire un peu notre communauté cet été. Donc ça a demandé beaucoup, beaucoup de vigilance sur les réseaux. Et puis après, bah forcément, des personnes qui sont potentiellement, voilà, en capacité, comme je disais, de traiter des datas ou de donner un petit peu de leur temps pour faire des enquêtes de terrain quand il se passe un panorage de grêle sur une zone. Bah, nous, c'est vrai que on a bien entendu des adhérents sur la Touraine, hein, c'est pas le souci, mais bah, ils sont pas forcément toujours disponibles. Donc plus on a de personnes, plus on a potentiellement, entre guillemets, un vivier de personnes qui peuvent se déplacer, bah, plus on a de chances d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui peuvent se déplacer, faire une étude et puis du coup faire remonter et pouvoir créer des articles en disant, voilà, on a eu un orage, il s'est passé ça, on a des photos, malheureusement il y a des dégâts, il n'y a pas de dégâts, etc. etc.
Et je suis quand même assez curieuse de savoir qu'est-ce qui vous passionne dans la météo.
Alors je pense que je suis tombé dedans assez petit. je m'en rappelle, hein, déjà j'étais en primaire, petite classe, hein, CP, CE1, à regarder déjà les orages par la fenêtre, regarder la foudre tomber, écouter le tonnerre tomber. Et puis après, je pense que comme beaucoup en France, en fait, je fais partie de la génération des tempêtes Lothar et Martin de 1999, où voilà, il y a vraiment eu un choc en disant voilà, même si on est un pays où on était peut-être un petit peu moins, mais on était un peu protégé de tout ça, même si ça avait déjà existé, bien entendu. Il y a eu un choc, il y a eu un déclic chez beaucoup de gens en fait avec ces tempêtes, et on a commencé à s'intéresser à la météo. Le système de vigilance de Météo France a été mis en place, et puis petit à petit, on s'est mis à ça. Et puis moi, je suis chasseur d'orage aussi, hein, on est beaucoup de chasseurs d'orage dans l'association aussi. Donc on a vraiment une passion à la fois pour les gelées, alors même s'il y en a de moins en moins, pour les épisodes de forte chaleur, malheureusement il y en a de plus en plus. C'est un domaine qui est très divers, on s'ennuie jamais parce que c'est jamais la même chose. Bon, même si des fois je dois avouer que après 13 ans de bons et loyaux services, il y a des fois où j'aurais bien pouvoir me prendre une semaine au calme. C'est cet attrait, c'est aussi la relation avec la nature qui finalement décide vraiment de ce qu'elle veut faire. On est là, on n'est pas là. Elle a décidé de faire passer un orage ici ou des pluies pendant 3 jours abondantes sur telle zone. Malheureusement, il va y avoir des conséquences, mais c'est elle qui a décidé, c'est pas nous.
Vous parliez de ces épisodes de chaleur et donc effectivement, depuis le début de 2024, on a enchaîné des températures plutôt douces. Puis ensuite, on nous apprend qu'il est tombé donc entre le 21 et le 26 février l'équivalent du double de pluie de la moyenne mensuelle en Indre-et-Loire. Est-ce que vous avez des explications pour ces phénomènes ?
Alors en fait, c'est vrai qu'on a énormément de douceur. Alors on a eu un début janvier hein, qui a été plutôt dans les normes en fait d'un vrai hiver. Hein. Tout le monde a dit il fait froid, il fait super froid, mais en fait on était dans les normales, donc ça c'était plutôt pas mal. Ça a permis au moins d'arrêter un peu la végétation temporairement, et puis après on est reparti sur du doux, hein, voire du très doux. On a quand même eu jusqu'à 19,7 à Tours le 15 février, hein, donc c'est quand même des températures qui sont hyper importantes. Le mois de janvier avait été à peu près dans les normales hein, de saison. Par contre, c'est vrai que le mois de février, très très doux, on n'a quasiment pas eu de gelée. Hein. Je crois qu'on a eu une gelée, ce qui a sauvé, entre guillemets, le mois de février, le 28, hein, même pas moins 20. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette gelée-là, je crois qu'il n'y aurait pas eu de gelée du tout du mois de février à Tours, ce qui aurait été inédit. Alors, ça a été le cas, par exemple, à Bourges. Hein, ça fait 42 jours au cours de l'hiver sans gelée. C'est juste inédit depuis la création de la station de Bourges en 1945. Et là, en effet, on a eu ce gros épisode hein, de précipitation qui s'est vraiment mis en place à partir du 21 avec 21 mm, 11 mm, puis après ça continue, 3, encore 18, etc. C'est vrai qu'on a eu une récurrence, on a eu en fait une rivière atmosphérique qui s'est mise en place. Hein, donc on avait de l'air qui arrivait en fait des Antilles, hein, de l'air assez doux, forcément, on l'a remarqué, mais en plus qui est chargé d'humidité. Et donc du coup, en arrivant chez nous, il s'est déchargé une grande partie de cette humidité, et ça a eu lieu pendant plusieurs jours de suite, hein, du coup, toute la fin février, et on a eu du coup des cumuls de pluie, en effet, qui ont été hyper importants.
Et est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est lié au réchauffement climatique, ou c'est plus des phénomènes météorologiques particuliers
Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc forcément, plus il fera chaud, plus l'air pourra se remplir d'eau. Et puis forcément, plus il pourra pleuvoir potentiellement. Après, c'est un jeu de placement entre des anticyclones et des dépressions. Et ça, le réchauffement climatique, entre guillemets, il est en rien là-dedans. C'est juste un phénomène qui s'est mis en place temporairement à ce moment-là sur notre région. Alors c'est vrai que, par exemple, si on prend les Hauts-de-France, hein, tout ce qui est Pas-de-Calais, eux, ça fait 4 ou 5 fois que ce genre de phénomène se met en place. Alors, on sait hein, potentiellement qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une répartition des précipitations qui sera très différente, potentiellement très différente de ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire des étés relativement secs et des hivers plus humides. Donc, dans cette optique-là, on est peut-être dans ça, avec justement du mois de février pour cette année qui sont un mois de février qui est très humide dans ce moment-là. Mais on peut pas dire c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a eu ce phénomène. On a eu ce phénomène parce qu'il fait plus chaud, il a été exacerbé parce qu'il fait plus doux que d'habitude pour ce mois de février, donc on a eu plus de précipitations. Mais voilà, on peut pas, tout n'est pas lié à ça. Il y a une partie vraiment placement atmosphérique des centres dépressionnaires et anticycloniques et en effet le réchauffement climatique avec de l'air plus doux que la normale.
Et donc on a l'impression quand même que depuis 2022, presque chaque mois est le mois le plus chaud jamais enregistré. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui risque de se poursuivre en 2024 ?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les mois sur tour, pour retrouver un mois qui est inférieur au normal de saison, il faut remonter à janvier 2022. C'est-à-dire que depuis janvier 2022, tous les mois ont été, alors des fois très légèrement, hein, des fois c'est plus 0,5 degrés, hein, mais sur une température moyenne mensuelle, c'est quand même remarquable. C'est impressionnant cette série d'anomalies chaudes. En France, je crois que l'année dernière, c'est plus de 1000 records de température maximale battue pour peut-être à peine une centaine de records de France. Je crois que c'est même moins que ça, mais j'ai plus cette exacte en tête. Alors, c'est pas pour ça que cette année, ça va être exactement pareil. Ce que l'on sait, ce qui commence à se dessiner, c'est que le phénomène El Niño qui a lieu dans le Pacifique et qui a tendance à réchauffer l'ensemble de notre planète par son action, logiquement, est vu avec une forte baisse à partir de la fin de l'été. Donc peut-être qu'à partir de cette période-là, on aura des anomalies qui seront moins marquées, ou alors on va réussir à passer un peu dans le négatif. Mais c'est pas parce qu'un mois ou une succession, même si là c'est plus que notable, hein, c'est quand même assez exceptionnel, même si on a cette succession assez exceptionnelle qui s'est mise en place dans le temps, c'est pas pour ça qu'au mois de mars, on n'aura pas du coup plutôt froid. On peut difficilement se baser là-dessus. Après, on peut voir à nous sur le... C'est vrai que sur les tendances saisonnières là qu'on a prolongées jusqu'au mois de juin, bon, pour le moment on voit pas de mois normalement froids. Des mois plus humides, oui. À partir de mai, peut-être un peu plus de sécheresse, mais on voit pas d'anomalies froides pour le moment.
Et quel est l'impact de ces anomalies météorologiques en Centre-Val de Loire ?
On a des renforcements des sécheresses, donc le renforcement des sécheresses forcément l'été. Mais certaines essences d'arbres du coup sont quand même moins dans leurs conditions optimales pour vivre, donc même certaines dépérissent. Donc si on a des arbres qui sont fragilisés ou morts, on a un risque d'incendie, à fortiori lié à la sécheresse, qui est plus important. On a des débits d'eau des rivières qui sont en baisse, du coup les nappes phréatiques forcément sont à des niveaux anormalement bas. Ça permet la progression de certaines espèces, je pense aux moustiques tigres, notamment dans certaines agglomérations ou métropoles, qui va très très vite parce qu'il n'y a pas assez de froid l'hiver pour tuer les larves, etc., hein, par exemple. Et puis, on a aussi forcément une végétation, hors les espèces véritablement qui sont en train de dépérir parce que les conditions climatiques ne sont plus adaptées à leur survie. Là, on a les phénomènes qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire des faux printemps sur un mois de février, et puis, du coup, toute la végétation démarre. On a déjà des fleurs, on a déjà des arbres qui sont bien trop avancés pour la saison. Et si au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai, on a des gelées, alors qui finalement ne sont pas si tardives de ça. Elles sont tardives parce que la végétation a beaucoup d'avance. Mais temporellement parlant, elles ne sont pas du tout en retard. Il ne faut pas oublier que, par exemple, à Tours, logiquement, il devrait geler encore au moins presque 4 jours au mois de mars, encore une journée minimum, normalement, d'après les normales de saison, au mois d'avril. Donc, on a ce décalage qui se met en place, finalement, entre la végétation, temporellement avancée dans le temps, en fait. On a l'impression vraiment que la végétation, là, elle a démarré mi-février, alors que logiquement, on peut encore avoir des périodes fraîches, voire froides, jusqu'en avril, alors, des fois même un peu plus tard sur le reste de la région. Et puis, une des dernières conséquences, c'est l'été qui est à la fois en avance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des températures maintenant très élevées. Hein, si je prends l'année 2023, c'est vrai qu'on a eu le premier 30 degrés, plus de 30 degrés, on a eu le 25 juin, et on a eu jusqu'à plus de 30 degrés jusqu'au 2 octobre. Donc on a vraiment un mois, vraiment presque 5 mois d'été, ou 5 mois tout du moins, avec des températures potentiellement supérieures à 30 degrés. Donc forcément, pour les organismes, c'est pas bon. Même pour donner une idée, hein, c'est vrai que 2023 était très particulier. Les deux mois les plus chauds en 2023 l'été, c'est juin, avec une température moyenne d'environ 21,6. Après, c'est septembre, avec 21. Juillet avec 20,7 et août avec 20,6. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des mois, logiquement, de fin de printemps et début d'automne, juin et septembre, qui sont plus chauds que des mois d'été. Et donc là, c'est pareil, du coup, ça nous fait une période vraiment anormalement chaude. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent aussi, hein, cette répétition des températures vers 30 degrés, où on en a beaucoup trop, hein. Si on prend 2022, c'est pareil, on avait eu les premiers 30 degrés le 15 mai, c'était quand même remarquable, et après on a eu plus de 39 degrés en juin, en juillet, plus de 37 degrés en août, plus de 32 degrés encore en septembre. Donc, on voit vraiment des étés qui ont tendance à s'allonger dans le temps à partir de, pour le moment encore juin, mais ça pourrait être mai, hein, et qui peuvent aller beaucoup plus loin jusqu'à septembre.
Est-ce qu'à l'échelle individuelle, il y a des mesures préventives qu'on peut prendre face à ces anomalies météorologiques ?
Alors, vis-à-vis de la température, des hautes températures, de toute façon, on revient toujours sur l'isolation des maisons, dans la mesure des moyens de chacun. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément une période qui est économiquement simple. Alors, même pour nous, on le voit au niveau des adhésions, on a plus de turnover au niveau des adhésions depuis un an ou deux, parce qu'on sent que même certains adhérents disent écoutez, je peux pas adhérer maintenant parce que j'ai pas 17 euros à placer. Je dis, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, quand c'est vraiment des situations qu'on connaît, on peut laisser un petit peu de temps aux gens pour nous faire parvenir leur cotisation ou encaisser les chèques le mois d'après. Enfin, on se débrouille, hein, on reste humain, hein, on n'est pas une entreprise. C'est essayer, mais alors c'est pas forcément simple à mettre en place rapidement, hein, mais créer de l'ombre sur sa maison en respectant les voisins, etc. Si on plante des arbres, bien entendu. Il y a malheureusement pas grand chose à faire, hein, quand la nature a décidé de vous mettre 39 degrés pendant 3 jours. De toute manière, à un moment ou à un autre, la chaleur finira par rentrer. Et à contrario, hein, si on a des températures qui redescendent vers -5, -10, forcément, il faudra chauffer, on n'a pas le choix.
Sur une note un peu plus positive, vous avez annoncé fin février que vous allez fournir des données climatologiques pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors du coup, on a été contacté par un des responsables des tirs sportifs sur Châteauroux et qui avait besoin de données justement de température maximale et sur les rafales de vent, parce que c'est du tir qui se fait forcément en salle, mais pas que, mais aussi du tir à l'extérieur. Et donc du coup, on a eu la chance de pouvoir aller chercher des données climatologiques avec notamment le modèle ERA5 qui vient de Copernicus, qui sont des données qui sont libres d'accès. Et donc du coup, on a fait nos petits calculs parce j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, hein, en tant qu'administrateur, un climatologue de formation. Et donc du coup, on a pu fournir ces données qui vont permettre du coup de mieux appréhender les risques qu'il pourrait y avoir justement sur cette période de JO, avec en effet, hein, des températures qui peuvent monter à plus de 35. Et puis sur les périodes estivales, c'est un petit peu moins marqué, mais on peut avoir quand même du moment où le vent est supérieur à 70 km/h, c'est complexe de maintenir des épreuves de tir, puisque forcément ça va quand même dévier les balles. Tout ça a été pris en compte, et donc on était content de pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice à ces jeux qui sont organisés au niveau régional et national.
Et est-ce que vous avez d'autres projets futurs en préparation avec Météo Centre?
Alors du coup, on a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, peut-être même un peu trop pour une équipe de bénévoles. Je parlais tout à l'heure, on a du webcam sur la chapelle sur Loire, on va faire notre assemblée générale du coup sur l'agglomération de Châteauroux en avril. On a d'autres projets de webcam et de station, notamment en Brenne, un petit peu au nord-est du Blanc. On voudrait essayer aussi d'implanter des stations météo et des webcams sur l'ouest Touraine, parce que c'est une zone malheureusement qui pour le moment on a du mal à s'implanter. Donc ça serait pas forcément pour 2024, mais sur 2025, on fait appel aux personnes qui seraient potentiellement intéressées pour qu'on puisse développer notre réseau dans cette zone, parce qu'on a du mal à aller travailler par là. Alors, on a eu la chance l'année dernière de faire un partenariat avec le Château d'Amboise et de les aider dans leur transition écologique avec l'implantation d'une station météo pour qu'ils puissent réguler un peu plus leurs arrosages et puis avoir une meilleure connaissance de l'humidité du sol. Mais voilà, donc après, oui, c'est des projets, mais sur le Loir-et-Cher, on devrait implanter une station météo à Blois. Sur Sancerre, on devrait avoir une webcam qui va se mettre en place aussi. On a d'autres projets sur l'Eure-et-Loire. Voilà, on a quand même une petite dizaine de projets qui sont en train de se dessiner. Alors, parfois avec des particuliers, parfois avec des métropoles, voilà, ou des communes. Donc, ce qui prend toujours plus de temps, ça fait un petit peu plus administratif, mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien.
Et pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs, un message que vous souhaitez faire passer ?
Il faut vivre avec son temps, et c'est vrai que à l'heure actuelle, on est toujours dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais il faut bien penser à faire la différence et à s'informer sur les bonnes sources, croiser les informations, parce qu'on a malheureusement une petite, toute petite communauté de gens, en fait. Alors, il y a un effet zoom, hein, c'est-à-dire qu'on les met beaucoup en avant, les climato-sceptiques, mais ils arrivent à faire quand même beaucoup, beaucoup de mal et à désinformer une partie de la population. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions sur nos réseaux. Alors, pas forcément que sur Météo Centre, hein. Vous pouvez aller sur d'autres associations, je pense à InfoClimat, l'Association Nationale, ou sur d'autres sites, hein, institutionnels, la Météo France, etc., bien entendu. Mais, il faut pas s'enfermer, voilà, dans des croyances. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais vous n'êtes pas encore sûr à 100%. Par exemple, est-ce qu'il y aura plus d'orages avec le réchauffement climatique? Donc, on a beau expliquer qu'on a encore des limites informatiques, des limites de coûts aussi, hein, tout simplement. Il ne faut pas tomber, entre guillemets, dans l'obscurantisme et essayer d'aller de l'avant. C'est important. Si on tombe tous dans l'obscurantisme, on va pas avancer. Et je pense qu'on n'arrivera pas à régler un problème qui est déjà particulièrement épineux.
Donc on peut vous retrouver sur votre site internet météo-centre.fr, les réseaux sociaux. Exactement. Également, Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un, voilà, mail ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter?
Non, numéro de téléphone, non, c'est mon personnel, donc je ne le donne pas. On préfère pas mettre d'argent dans un forfait. Mais voilà, c'est pareil sur le site, hein, il y a un formulaire de contact, donc on essaie d'être le plus réactif possible pour répondre. C'est souvent de l'ordre de 48 heures ou 72 heures, donc il y aura... Ça, on sera à plaisir de répondre aux questions.
Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi et merci à Olivier Renard de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio 89.3.
Et nous retrouvons Pierre Demar pour le retour de la musique avec son titre Roméo.
Amor.